Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Isabelle Balkany sera-t-elle présente à son procès ? Il y a quelques minutes, elle n'était toujours pas apparue au tribunal de Paris. Les époux Balkany, qui dirigent la ville de Levanois depuis plus de 30 ans, sont accusés d'avoir caché 13 millions d'euros au fisc. Oui ou non, le caractère cancérigène du glyphosate est-il prouvé scientifiquement ? Un sénateur sème le doute 3 jours avant un rapport sur l'herbicide de Monsanto. Invité de ce journal, Cédric Villani, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques. La Grande-Bretagne redoute un conflit par accident dans le golfe Persique. L'Iran est soupçonné d'avoir saboté des navires d'Arabie Saoudite. Que sait-on de cette affaire ? Bertrand Galichet sera avec nous. Un ancien conseiller de Jacques Chirac devient conseiller d'Emmanuel Macron. Jérôme Peyra rejoint l'Elysée. Cédric Graziani nous détaillera la réorganisation de la présidence. Dans ce journal, encore un bon point pour Emmanuel Macron. La France dans le top 5 des pays les plus attractifs au monde. On parle d'économie. Pourquoi faire son coming out reste un tabou dans le monde du football. Bonjour Cécilia Arbonin.
Bonjour.
Et bien sans doute parce que l'homophobie est encore largement court. La Ligue de foot présente une série de mesures contre l'homophobie.
Le 17 mai dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2, un brassard arc-en-ciel pour les joueurs. Oui. Et puis également pour les supporters, une invitation à signaler des actes homophobes en tribune.
On aura les détails avec vous tout à l'heure. Ce lundi est la journée de la sécurité routière au travail. Il y a beaucoup d'accidents de retour du bureau, nous dit le délégué interministériel à la sécurité routière.
En semaine, le pic des morts sur les routes, eh bien, c'est en fin d'après-midi. On sort du travail, on est fatigué, on est stressé. Souvent, il faut aller chercher les enfants. Et donc, c'est là qu'on observe le plus grand pic d'accidents. Mais ils sont considérés comme des accidents du travail.
Et nous verrons quelles sont les mesures que prennent les entreprises. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Météo France, un lundi au soleil, sauf en Corse.
Effectivement, tout le monde appréciera ce début de semaine au soleil. Seule l'île de Beauté conservera un temps gris avec des averses. Et puis Mistral et Tramontane vont souffler entre 70 et 90 km par heure. Prévoyez une petite bise de nord-est dans les autres régions avec des à-coups jusqu'à 50 ou 60 km par heure.
Météo France qui n'a pas l'habitude de nous amphiroaper. C'est un mot québécois pour dire duper. Les mots québécois qui font leur entrée dans le dictionnaire Robert. Ce sera le Zoom tout à l'heure avec Jacqueline Pétrose à propos de ce Robert, ce nouveau petit Robert. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Les Balkany, leur nom est devenu synonyme d'affaires en politique. À tort ou à raison ? Réponse plus précise, à partir d'aujourd'hui au tribunal de Paris, le maire de Levallois en banlieue parisienne, Patrick, et son épouse Isabelle, première adjointe, sont soupçonnés de dissimulation de 13 millions d'euros d'avoir au fisc. Audience dans moins d'une demi-heure, 13h30 en principe. Y aura-t-il un faux départ ? Il y a une incertitude, Sarah Guibaudot. Isabelle Balkany pourrait être absente, elle qui a avalé des médicaments quelques jours avant l'ouverture de ce procès.
Ce matin, Isabelle Balkany était toujours hospitalisée dans le service psychiatrique d'une clinique francilienne. Il semble désormais probable que la première adjointe à la ville de Levallois-Perret ne sera pas en état de comparaître. Son avocat, Pierre-Olivier Sûr, devrait demander le renvoi du procès, mais rien ne dit qu'il l'obtiendra. Le tribunal correctionnel a prévu 6 semaines d'audience pour examiner d'abord la fraude fiscale reprochée aux époux Balkany, malgré leur patrimoine immobilier, les villas aux Antilles et à Marrakech, leur grande résidence de Giverny dans l'Eure. Ils ne déclaraient pas d'ISF et payaient très peu d'impôts sur le revenu. Puis le tribunal a prévu de se pencher sur les faits de blanchiment et de corruption, si prévenus dans ce volet, où Patrick Balkany tient pour l'accusation le rôle principal. Il y a aussi un promoteur saoudien accusé d'avoir versé un pot de vin pour décrocher des droits à construire sur Levallois, ou encore l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, qui aurait participé au montage via la Suisse et des sociétés écrans exotiques. Bref, c'est un procès assez lourd à organiser que le tribunal n'est sans doute pas enclin à reporter, à moins d'y être obligé. Et la défense, qui compte aussi l'avocat Éric Dupont-Moretti pour Patrick Balkany, n'a peut-être pas abattu toutes ses cartes.
Sarah Guibaudot au Palais de Justice de Paris. Sarah qui suivra ce procès Balkany. Un foyer d'infection de plus au Moyen-Orient. Y a-t-il eu des actes de sabotage contre des navires alliés des États-Unis, navires d'Arabie Saoudite, cela au large des Émirats Arabes Unis. L'Iran est montré du doigt par ces deux pays. Le chef de la diplomatie britannique redoute carrément un conflit par accident. Bertrand Galichet, vous nous avez rejoint. Que sait-on de cette affaire ?
Eh bien, le ministre saoudien de l'énergie ne signale ni blessés ni marée noire, mais parle de dégâts considérables aux structures de deux navires. L'un de ces pétroliers faisait route vers le terminal saoudien de Ras Tanura, mais les sabotages auraient eu lieu plus à l'est, dans la zone économique exclusive des Émirats arabes unis. Le détroit d'Ormuz est l'une des régions du monde les plus surveillées, entre l'Iran et le sultanat d'Oman. C'est le point de passage obligé des pétroliers qui alimentent une grande partie du marché mondial. Depuis des semaines, Téhéran laisse planer la menace d'une fermeture du détroit d'Ormuz et fait figure de suspect idéal aux yeux des États-Unis, même si aucune accusation n'a été formulée jusqu'à présent. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères demande l'ouverture d'une enquête et parle d'incidents préoccupants. Vendredi, le Pentagone a annoncé l'envoi dans la région d'un navire de guerre transportant des engins amphibies et une batterie de missiles Patriot, du matériel qui s'ajoute au B-52 déjà positionné à proximité. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a décidé de se rendre aujourd'hui à Bruxelles pour parler avec les Européens de questions urgentes et notamment de l'Iran. En toile de fond de cette nouvelle montée de tension, la suspension de plusieurs engagements de l'Iran liés à l'accord sur le nucléaire dénoncé par les États-Unis.
En Suède, ses avocats, les avocats du lanceur d'alerte le redoutaient. La justice relance les poursuites pour viol contre Julian Assange. Y aura-t-il bientôt des écoles au nom de Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello? C'est une proposition du ministre de l'Éducation. Demain aux Invalides, un hommage national sera rendu aux deux militaires qui ont sauvé les otages français enlevés au Bénin et retenus au Burkina, mais qui ont perdu la vie lors de cette mission, les militaires. Florence Parly, la ministre des Armées, était ce matin l'invitée de France Inter. Elle a redit à quel point l'opération menée la semaine dernière était délicate. 20 commandos français, 6 ravisseurs, la consigne de ne pas tirer. La ministre rappelle quel était l'objectif de la mission.
Elle avait pour objectif de libérer des otages sains et saufs. Donc, toutes les précautions devaient être prises pour parvenir à ce résultat. Les armées disposaient d'un certain nombre d'informations, de renseignements, mais bien évidemment, lorsqu'une opération se déroule en pleine nuit, on n'a pas forcément une vision précise et en particulier, on ne savait pas dans quelle hutte ces otages se trouvaient. Il fallait donc pouvoir prendre possession de ces huttes sans savoir dans laquelle de ces huttes se trouvaient les otages. Il n'était donc pas possible de tirer en premier. Il fallait d'abord avoir une appréciation de situation. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle, dans les huttes qui ne contenaient pas ces otages, mais des ravisseurs et des terroristes, nos deux fusiliers marins ont trouvé la mort.
Dont acte, Nathalie Hernandez, va pour toutes ces explications. La difficulté de la mission n'empêche. Comment cette opération est-elle vue par la troupe, par les militaires de base?
Alors l'opération est vécue comme un succès. Hein. Les otages ont été libérés. Mais vous l'imaginez, elle a aussi suscité beaucoup d'émotions avec la perte de ces deux soldats d'exception. Il faut rappeler que pour appartenir aux forces spéciales et en particulier au commando Hubert, le fleuron de la marine nationale, le parcours est ardu, très ardu. Ces opérateurs d'élite sont peu nombreux, ils forment une famille. Alors après la mort de l'un des leurs, cela provoque toujours un traumatisme et quelquefois de la colère. Aller chercher deux touristes qui n'ont peut-être pas mesuré tous les risques encourus, ça ne passe pas pour certains. À l'image de la mère du colonel Beltram, tué par un terroriste à Trabe l'an dernier, elle juge l'attitude des otages égoïste. Mais pour le patron des forces spéciales, le vice-amiral Isnard, c'est notre mission, si on nous le demande, dit-il, d'aller chercher des citoyens français menacés, tout comme les secouristes vont récupérer des skieurs égarés en montagne. Cette opération, ajoute-t-il, a été minutieusement préparée en fonction du contexte, les risques calculés, car le temps était compté. Alors, après, il y a l'imprévu et la malchance. Ce sont eux qui ont coûté la vie à Cédric de Pierrepont et à Alain Berton-Cello.
Merci Nathalie Hernandez. Et demain, évidemment, France Inter retransmettra l'hommage aux deux militaires qui ont perdu la vie dans cette opération. C'est l'un des objectifs de la politique d'Emmanuel Macron. Un grand cabinet d'audit international lui décerne un bon point. L'économie française est de plus en plus attractive dans le classement annuel d'Atekerney et Delphine Simon. La France intègre le top 5 des pays les plus attractifs.
Oui, effectivement, c'est la première fois que la France intègre ce niveau du classement, toujours dominé par les États-Unis et par l'Allemagne. L'Hexagone gagne 2 places et passe de la 7e à la 5e place, plus attractif aux yeux des investisseurs étrangers que la Chine et le Japon. Dans l'Hexagone, les grandes entreprises apprécient tout particulièrement les réformes engagées comme la loi Pacte ou encore la réduction de l'impôt sur les sociétés censée atteindre 25% à la fin du quinquennat. Deux autres autres critères pèsent dans leur choix, les capacités en matière de technologie et d'innovation. Et la crise des Gilets jaunes n'a, semble-t-il, pas affecté leur volonté d'investir chez nous, explique Xavier Ménard, associé au cabinet de conseil AT Kearney.
Même si ces images ont été sur tous les écrans un peu partout dans le monde, étonnamment, ce mouvement ne semble pas avoir eu de gros impacts sur la confiance affichée par les investisseurs. Ce qu'on lit, c'est effectivement un effet Macron, ou en tout cas un effet confiance dans les dirigeants à mener coûte que coûte un certain nombre de réformes pour l'entreprise.
Certes, les investissements étrangers ont chuté en France de plus de 40% l'an passé, mais c'est à peu près autant que dans la plupart des pays développés.
Et ces informations, vous les retrouvez détaillées également sur franceinter.fr, ce classement de l'attractivité des différents pays.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Oui ou non, le caractère cancérigène du glyphosate est-il prouvé par la science? Un sénateur, membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques, sème le doute. Cet office doit rendre jeudi un rapport sur l'évaluation du glyphosate comme substance cancérigène. Et le sénateur Pierre Médivielle est rapporteur de ce texte. L'invité de ce journal est un homme qui est à la fois scientifique et politique, député En Marche et vice-président de cet Office parlementaire des choix scientifiques. Bonjour Cédric Villani.
Bonjour.
Monsieur Villani, je vous soumets les mots du sénateur. La cancérogénicité de la molécule glyphosate n'est pas démontrée par la science. En l'état actuel de nos connaissances, le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge. Qu'en dites-vous?
J'en dis surtout que ni l'OPEXT, l'Office parlementaire scientifique, ni moi-même ne nous associons à ces propos, bien sûr. Et ce qui a été dit, la nouvelle qui tourne en boucle ici et là depuis ce matin, est erroné. Il n'y a pas de rapport sur le glyphosate à sortir maintenant, jeudi. Il y a un rapport sur lequel a travaillé le sénateur Médivielle, oui, qui porte sur le fonctionnement des agences d'évaluation des risques sanitaires. C'est un rapport transpartisan auquel ont participé 4 rapporteurs, 2 du Sénat, 2 de l'Assemblée nationale, selon des groupes politiques différents, communistes, UDI, Modem et République en marche. Et les conclusions qu'ils vont apporter dans ce rapport sont des conclusions pour renforcer la transparence, la confiance, la rigueur des processus d'évaluation.
Il est allé trop vite, nous dites-vous. Est-ce que sur le fond, il a tort?
Est-ce que sur le sénateur Médivielle a d'abord brisé l'embargo qui était censé être avant la conférence de presse qui aura lieu jeudi au Sénat et à laquelle je vous invite, 14h, j'y serai. Et ensuite, a ajouté aux conclusions du rapport ses propres conclusions qui ne regardent que lui et qui n'engagent en rien notre responsabilité.
Alors, allons un cran plus loin, Cédric Villani.
Je déplore cette maladresse.
Allons un cran plus loin. Je vous ai volontairement cité ces propos parce qu'au fond, ils reprennent ce qu'on appelle les éléments de langage de Monsanto, cette comparaison avec la charcuterie ou la viande rouge. Est-ce que vous dites il est en train, au fond, de jouer le rôle de Monsanto, de saper le travail de la commission pour cette firme?
Il est surtout, le sénateur Médivielle est surtout en train de semer le doute sur les méthodes de travail de l'Office parlementaire scientifique, qui sont un modèle de rigueur, comme vous le verrez bien dans les conclusions et dans le rapport, et c'est une maladresse que je déplore. Je parle au nom de la... en mon nom institutionnel, parce que je suis premier vice-président de cet office, dont le président est Gérard Longuet, qui est entièrement sur la même ligne que moi. Un communiqué de presse sera publié dès aujourd'hui de la part de l'office pour bien expliquer qu'il y a eu confusion et que le rapport tel qu'il est déjà rédigé n'a aucunement l'intention de rouvrir le dossier du glyphosate, de changer une quelconque conclusion de l'une des agences qui se sont prononcées là-dessus.
Merci Cédric Villani. Restez avec nous, je voudrais vous faire écouter de ce que Sandy Dauphin, notre spécialiste des questions écologiques, a à nous dire sur le sujet. Bonjour Sandy.
Bonjour.
En l'état, qu'est-ce qu'on peut dire pour affirmer ou relativiser le caractère nocif du glyphosate?
Alors en 2015, le CIRC, une agence de l'Organisation Mondiale de la Santé, a classé le glyphosate comme cancérogène probable pour l'homme, mais cet avis, élaboré par 17 chercheurs indépendants qui ont épluché les études universitaires disponibles, n'est pas partagé par les agences d'évaluation européennes, l'EFSA, et française, l'ANSES. D'où ce rapport du Sénat, comme l'expliquait Monsieur Villani, demandé justement pour évaluer le mode de fonctionnement de ces agences, car leur travail est très contesté, notamment par les ONG. En juin 2017, je vous donne un exemple, les journaux italiens et anglais, la Stampa et le Guardian, ont révélé que des pages entières de l'avis de l'EFSA, Agence sanitaire européenne, étaient un copier-coller d'un document Monsanto. En France, l'ANSES dit qu'elle n'a pas d'éléments aujourd'hui pour classer l'herbicide controversé comme cancérogène probable. Mais là encore, les ONG contestent leur argument. Pour parvenir à cet avis, l'ANSES a étudié le dossier de demande de réhomologation du glyphosate déposé en 2017 auprès de l'Europe. Or, ce dossier contiendrait trop d'études fournies par l'industrie elle-même. J'ajoute que depuis, l'ANSES a mandaté un nouveau groupe d'experts pour analyser la littérature existante. Il doit rendre ses conclusions dans les semaines à venir. Vous voyez que la bataille d'experts sur les effets du glyphosate sur la santé se poursuit. En revanche, les conséquences sur l'environnement, elles, sont beaucoup plus évidentes. Perte de biodiversité et contamination des cours d'eau.
Cédric Villani, une dernière question. Qu'est-ce qui pêche aujourd'hui ? C'est l'évaluation du produit ou c'est la communication ?
Les deux. D'abord, il y a une chose de sûre dans le dossier, c'est que Monsanto a agi là-dedans avec des pratiques plus que douteuses. Maintenant, il faut bien comprendre que évaluer la toxicité d'une molécule, d'un produit, c'est extraordinairement complexe et ça fait partie du procédé, l'ensemble du processus de liaison entre choix politiques et décisions scientifiques qui sera l'un des sujets majeurs du rapport que j'évoquais. À titre personnel, je suis convaincu que le grand enjeu, que le débat sur le glyphosate, il faut le considérer comme derrière nous, pas le rouvrir ce dossier maintenant. Ce qui compte, c'est dans la décennie qui vient de sortir des phytosanitaires en général et d'arriver vers un mode d'agriculture et d'économie de l'agriculture beaucoup plus économe et respectueux. Ça, c'est mon avis personnel ou en tant que scientifique. En tant que premier vice-président de l'Office parlementaire scientifique, je vous invite simplement à consulter le rapport qui sera rendu jeudi et qui sera un modèle de rigueur ne correspondant pas du tout aux quelques phrases échappées ici et là que vous avez pu citer, en particulier de mon collègue sénateur Medevielle.
Merci Cédric Villani d'avoir répondu aux questions de France Inter. Merci beaucoup. On attend donc jeudi le rapport et le communiqué dont vous nous avez parlé dans la journée. Les européennes, à présent, un comparatif France-Allemagne. Voilà ce que vous propose franceinter.fr à 13 jours du scrutin. Un élément de comparaison parmi d'autres. On close beaucoup sur les plus de 30 listes en France. C'est difficile de s'y retrouver, c'est vrai. Eh bien, en Allemagne, Ludovic Piétenu, il y en a 41.
Beaucoup de petits partis tentent leur chance, ils n'ont pas vraiment de programme européen, certains ne s'intéressent qu'à un seul thème, la santé ou les animaux. La particularité en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de seuil pour être élu, même avec moins d'1% des voix, ils peuvent espérer remporter au moins un siège. Comme ce fut le cas il y a 5 ans, pour un parti néo-nazi, ou Die Partei, ce parti satirique aux propositions loufoques, comme celle d'exiger un maximum vital d'1 million d'euros pour chacun. Mais ce sera la dernière fois. L'an dernier, l'Europe a demandé au pays de fixer un seuil d'élection entre 2 et 5% des voix. D'ici aux prochaines élections de 2024, l'Allemagne devra donc faire un choix. En attendant, il y a profusion, au moins 3 formations ultranationalistes qui témoignent de l'audience inédite depuis la Seconde Guerre mondiale de l'extrême droite allemande, ou bien 5 listes écologistes qui ont aussi senti le vent favorable au vert. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
À Paris, à moins de 2 semaines de l'élection, l'objectif d'Emmanuel Macron, que sa liste soit devant celle du RN, est loin d'être gagné. Le président, surtout les fronts, on l'a déjà dit avec vous la semaine dernière, Cyril Gradiani. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Il se mêle de près de la campagne européenne, mais aussi, on sourit parce que j'ai écorché votre prénom dans les titres. Voilà, ça arrive. Il réorganise l'Élysée, le président de la République. Une nouvelle fournée de conseillers arrive, dont un venu de la droite.
Oui, et à l'Élysée, ça commençait à résonner comme dans un palais vide. Beaucoup de départs et non des moindres. Certains sont devenus ministres comme Sibeth Ndiaye. D'autres ont quitté l'Élysée, c'est le cas d'Ismaël Emelian. Mais peu d'arrivées pour numériquement déjà les remplacer. Et puis il y a désormais l'arrivée de Jérôme Peyrat, nouveau conseiller conseiller politique. Emmanuel Macron comble un vide. Perra, c'est un ancien conseiller des présidents Chirac, Sarkozy, pilier de l'ex-UMP, proche de NKM. C'est intelligent pour continuer à fracturer la droite, glisse un de ceux qui susurre à l'oreille du président. Jérôme Perra la connaît sur le bout des doigts. Qui plus est, c'est un élu local, maire d'un village de Dordogne, donc totalement en phase avec les territoires. Le chef de l'État a visiblement écouté ceux qui, dans son entourage, le tannaient de se renforcer avec des personnes de terrain. Alors le mouvement d'ampleur se poursuit. Emmanuel Beaune, nouveau Sherpa du président, il était directeur de cabinet de Le Drian au Quai d'Orsay. Il remplace Philippe Etienne, promu normalement à l'ambassade de France à Washington. Et puis il y a enfin la cellule communication de l'Élysée. Des noms sont murmurés, mais pour l'instant le président prend son temps. Depuis qu'ils sont tous partis, ça n'est pas pire qu'avant, ironise néanmoins un de ses amis.
Merci Cyril. Dans l'actualité économique à l'instant, une confirmation, la direction d'Air France confirme le plan de départ de 465 salariés, départ volontaire essentiellement, c'est en tout cas les informations qu'on avait ce matin, sur des bases régionales. Si vous allez au stade le week-end, stade amateur ou professionnel, voici un grand classique homophobe. 6 mètres, le gardien dégage et dans les tribunes. Tous ceux qui beuglent ces mots fleuris ne sont sans doute pas des homophobes crasses, mais le mot est bel et bien là. Comment lutter contre l'homophobie ordinaire dans le football? Cécilia Arbona, la présidente de la Ligue, présentait un nouveau train de mesures ce matin.
Oui, la journée de championnat de France le 17 mai prochain en Ligue 1 et en Ligue 2 sera dédiée à la lutte contre l'homophobie, donc annonce de Nathalie Bois-de-la-Tour, la présidente de la LFP. Ce qui veut dire que les entraîneurs, les capitaines, les arbitres porteront tous un brassard arc-en-ciel aux couleurs du drapeau LGBT, le mouvement lesbienne, gay, bi et transgenre. Par ailleurs, un clip de sensibilisation va être diffusé dans tout le pays. Il a été présenté ce matin et on va en écouter le slammer Bob Liebman.
Parfois, je pense à ceux qui vont au stade pour en découdre. Ceux qui ont besoin de ça parce qu'ils ont un truc à résoudre. À ceux qui traitent de PD les joueurs sur le terrain. Sans penser que dans la tribune, c'est une insulte pour leurs voisins.
Alors la Ligue veut également inciter le public dans les tribunes à signaler des abus pour pouvoir sanctionner les auteurs. Et puis Johan Lemaire, qui est un ancien footballeur amateur des Ardennes et qui a révélé son homosexualité en 2004, lui demande aux joueurs professionnels de libérer leurs paroles. Trop de tabous, trop de silence, dit-il.
Si c'est vraiment une grande star qui est très fort, qui est meilleur que tout le monde, il n'a aucun risque. Tout le monde dira bravo, respect, on t'adore. Et là, les médias, les footballeurs et même les supporters diront respect, mec. Si c'est un joueur un peu moins bon, eh ben là, il va prendre une rafale. On dira, regarde-moi ça, sa petite tarlouse, il ne sait même pas tirer un coup franc, il fait des amortis pourris. Il va prendre cher parce que tu es gay. Ben, tout de suite, on va croire que tu vas nous regarder sous la douche. Et moi, je rêve que l'équipe de France fasse quelque chose, une bonne fois pour toutes. L'exemplarité.
Un seul joueur de l'équipe de France a accepté de parler du sujet de l'homosexualité dans le football face caméra devant Johan Lemaire, qui est donc auteur d'un documentaire sur le sujet. Cet unique joueur, c'est Antoine Griezmann, le buteur de l'Atlético Madrid.
Et le documentaire, il passe demain soir et Johan Lemaire sera demain matin l'invité de Sonia De Villers sur France Inter entre 9h40 et 10h. Ce lundi est la journée de la sécurité routière au travail. Près de 500 personnes ont perdu la vie l'année dernière au volant dans le cadre d'une mission au travail ou sur le trajet, ce risque d'accident du travail au volant. Voilà ce qu'en dit Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, risque désormais identifié par beaucoup d'entreprises après avoir été longtemps sous-estimé.
La SNCF, il y a encore quelques années, alors qu'elle fait du transport ferroviaire, le principal cause de mort, c'était les accidents de voiture, parce qu'on se précipitait, par exemple, pour aller réparer une voie ou dépanner un train. La fatigue joue beaucoup quand il y a des délais de livraison et qu'on doit conduire longtemps la nuit. Et donc, vous avez des entreprises qui ont mis en place, par exemple, un droit au roupillon. Un chauffeur a le droit, même s'il a des délais à respecter, de s'arrêter pour dormir 15 à 20 minutes et se reposer. Une grande entreprise qui s'occupe de réseaux électriques m'expliquait que autant le risque électrique est parfaitement pris en compte, autant le risque routier, alors c'est un risque qui est moins évident et pourtant est très très fort. C'est aussi des droits, hein, c'est aussi le droit à ce qu'on ne vous fasse pas faire, par exemple, on vous oblige à téléphoner constamment au volant, hein, qui est vraiment une plaie du transport professionnel, mais vous avez des entreprises qui ont décrété que non seulement dans leur entreprise on ne téléphone pas, mais on a l'interdiction d'appeler un collaborateur qui est en train de conduire, etc. Vous avez des démarches qui vont très très loin, mais avec zéro accident.
Emmanuel Barbe avec nos confrères de France Info. Mercredi, dans le cadre de la fête du pain, un boulanger obtiendra le titre de l'auteur de la meilleure baguette tradition de France, la Palme d'Or des Mitrons. Il y a 21 candidats, tous sont déjà des champions régionaux. Ils seront jugés, entre autres, sur l'arôme, le goût, la couleur, le croustillant de leur baguette. Ils devront, devant le jury, en fabriquer 40. Taille et poids très précis. Parmi les candidats, Ludovic Desœuvres. Cela fait plus de 20 ans qu'il est dans le pétrin. Il tient la boulangerie La Fournée des Fables à Château-Thierry. Fabriquer une excellente baguette tradition, c'est très, très technique.
Le plus gros stress, ça va être la météo. L'humidité, on est en extérieur, on est sous chapiteau, on maîtrise pas du tout la météo forcément, heureusement d'ailleurs. Un temps humide, il va falloir baisser les hydratations de pâte. Un temps plus chaud, il va falloir réduire en levure.
Et qu'est-ce que vous appelez hydratation ?
L'humidité dans la pâte. La recette de base du pain, c'est 1 kg de farine, 700 g d'eau, à 70% d'hydratation. Et donc après, plus ou moins le temps humide, on va descendre d'un point, donc on va descendre à 690 g d'eau. Voilà, ça se joue au gramme. Donc là, ça va être un stress, mais bon, j'ai vu la météo, il fait beau.
Ah oui, vous avez regardé ?
Ah bah bien sûr, ça fait 3 jours que je suis la météo, quoi. Parce qu'arriver à ce niveau-là, c'est pour finir premier, quoi.
Autre difficulté ?
Autre difficulté pour le concours, ce qui arrive le plus dur aussi, c'est la longueur de la baguette et le poids de la baguette. Parce que la baguette, c'est 50 cm de long et 250 grammes cuites. Donc on connaît le poids cru, mais on connaît pas forcément le poids cuit à la fin, quoi. Moi, mes baguettes ici, elles font toutes 20-30 grammes de plus, quoi. C'est pas. Voilà, je suis pas à 20 grammes, quoi.
Vous n'avez pas l'habitude de tout mesurer à ce point-là, quoi ?
Non, non, on est au travail pour gramme et là, la difficulté, elle est là aussi, quoi. Faut jongler, quoi.
Vous allez faire comment, alors ?
Ah bah, ça fait un mois et demi qu'on s'entraîne tous les jours à fond sur la longueur, sur le poids, et là je suis à 250 grammes cuite, quoi.
Il y a un entraînement ?
Ah, il y a un entraînement, oui, ça fait un mois et demi avec une recette spéciale pour la tradition, celle que je vais sortir. En fait, quand il faut qu'on soit formaté ce jour-là, à pas réfléchir.
Et vous entraînez comment, où ? Parce que vous avez déjà des horaires de dingue.
Ah oui, bah, l'après-midi, quoi. Une fois que l'équipe est partie, moi je suis là tout seul, je pétris, je m'amuse, voilà, quoi.
Alors, il juge aussi sur le croustillant, l'aspect, la mie.
Oui, je joue sur l'alvéolage de la mie, quoi. Donc une belle mie alvéolée régulière, sur une mie un peu crème, pas blanche, sur le croustillant de la croûte. Je vais prendre une baguette, on entend bien le croustillant de la croûte.
Et ça se travaille comment ?
Bah ça, c'est toute une cuisson, quoi. Mais bon, ce qui est déterminant sur le croustillant, c'est, on en revient toujours au même, c'est la météo, quoi. Une météo humide, le croustillant sera beaucoup moins important, quoi.
Ah, le croustillant, c'est mercredi qu'on saura quel est l'auteur de la meilleure baguette tradition de France. À propos de gastronomie, sur les 109 nouveaux mots qui font leur entrée cette année dans le Robert, la gastronomie étrangère en fournit quelques-uns. Les ramen, les nouilles japonaises, le jambon serrano ou encore le prosecco font leur entrée. À la rubrique Nouvelle Société et Actualité, les millennials, ces jeunes adultes des années 2000, le coworking, la monoroue sur laquelle on croise des passants dans nos rues, anticasseurs, transpartisans, boboïsés, vidéo-verbalisation. Et puis Jacqueline Petros, vous nous avez rejoint. On a déjà dressé avec vous la liste des nouveaux mots du Larousse la semaine dernière. Eh bien, dans le Robert comme dans le Larousse, la francophonie ou le lexique régional fournissent des mots nouveaux.
Oui, alors les concepteurs des dictionnaires sont toujours à l'affût. Il y a les conseillers linguistiques dans chaque pays. Et puis partout, bien la littérature pourvoyeuse, bien sûr, de langage quotidien. Alors pour le Québec, on trouve cette année le niaisage, qui est l'action de perdre son temps à des futilités. La jarniguane, qui est le bon sens ou le jugement. Et tout cela avec toujours pas mal de panache. Marie-Hélène Drivo, directrice éditoriale du Petit Robert.
C'est vrai qu'au Québec, ils ont souvent des verbes assez longs, justement, s'enfarger ou enfirouapper. Se faire enfirouapper, c'est se faire avoir, hein, globalement, mais d'une manière assez subtile. Et donc, ces mots très longs, c'est vrai qu'on n'en a plus trop en France, mais ils sont sympathiques.
Et puis, je sais que ça va vous plaire, il y a aussi l'apport de nos amis belges.
On a ajouté une expression qui nous a bien plu, c'est « il n'a pas toutes ses frites dans le même cornet », qui veut dire être un peu dérangé, un peu fou. Dans les belgicistes, cette année, il y avait jobé et jobiste.
Ouais. Alors, jobé, c'est faire de petits jobs l'été. En Afrique, on peut cadoter, faire des cadeaux, avis aux amateurs. Et puis, la francophonie, souvent, est un retour de mots qui font le lien avec nos régions, justement, comme pégé, qui vient du Languedoc, et qui veut dire, eh bien, ça colle, ça
oui,
va bien.
C'est quand ça colle, c'est quand on a les mains pas propres, notamment, que les mains pèguent. Merci, Jacqueline Petros.
La météo, avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Où ça colle, ça va bien, d'accord, les deux. Ce qui va bien, c'est la météo, Jean-Pierre Hameau.
Tout le monde appréciera ce début de semaine au soleil. Seule l'île de Beauté conservera un temps gris avec de faibles précipitations. Cet après-midi, on observera même de la neige sur la montagne Corse à partir de 1800 mètres d'altitude. En revanche, le vent sera souvent de la partie. Le Mistral va souffler jusqu'à 90 km par heure en basse vallée du Rhône. La Tramontane atteindra 70 km par heure. Prévoyez un bon vent de nord-est dans les autres régions avec des rafales comprises entre 40 et 60 km par heure. Les températures maximales seront en dessous des moyennes de saison dans la moitié nord. Elles évolueront de 15 à 20 degrés. Comptez 20 à 24 degrés dans la moitié sud. Et puis demain, prévoyez exactement le même type de temps. Le soleil sera au rendez-vous dans une atmosphère ventilée, entretenant une petite sensation de fraîcheur.